Voici Hélène Roussel pour le journal. Bonjour Hélène.
Bonjour. Les cendres et le sang. Gaza, des frappes ce matin sur le domicile du chef du bureau politique du Hamas. Hier, l'immeuble de deux grands médias internationaux pulvérisés, un camp de réfugiés et des maisons bombardées. Roquettes tirées également sur Tel Aviv. Près de 200 morts en une semaine avec des violences jusqu'en Cisjordanie. Que peut faire la communauté internationale? Joe Biden au téléphone cette nuit. Son émissaire sur place depuis hier et conseil de sécurité de l'ONU cet après-midi. Dans le reste de l'actualité, garde à vue prolongée pour l'auteur présumé du double meurtre dans les Cévennes. Premier meeting d'un candidat à la présidentielle cet après-midi, Jean-Luc Mélenchon ouvre le bal. On suivra le guide dans les rues d'Athènes, la Grèce a rouvert grand ses portes aux touristes. Et puis le foot, Bordeaux-Nantes vont-ils finir en Ligue 2? On saura aussi qui est le sportif le mieux payé au monde. Rendez-vous pour ça dans Esprit Sport.
Et à 8h20, un regard sur les préjugés sexistes notamment, avec le philosophe Raphaël Antoven. Il publie « L'école des dames » aux éditions de l'Observatoire.
France Inter. Un immeuble de 13 étages s'effondre en quelques secondes. L'image est impressionnante, elle a fait le tour du monde. Le bâtiment abritait les locaux de la chaîne de télé Qatari, Al Jazeera et l'agence américaine Associated Press. Les occupants ont eu une heure pour évacuer. Un crime de guerre, une tentative de faire taire les médias, a dénoncé hier le directeur d'Al Jazeera. L'agence AP s'est dit-elle choquée, horrifiée. Israël a surciblé le Hamas qui se sert des civils, dit-il, comme bouclier pour cacher ses moyens militaires. Les deux médias touchés demandent aujourd'hui des preuves et le président américain lui-même est sorti de sa réserve hier soir. Coup de téléphone aux dirigeants israéliens et palestiniens. Correspondance à Washington, Grégory Phillips.
Aux États-Unis, les images de la destruction par des missiles israéliens de la tour de 13 étages qui à Gaza abritait les bureaux de l'agence de presse américaine AP et d'autres médias tournent en boucle sur les chaînes de télévision. Joe Biden d'ailleurs fait savoir qu'il a dit à Benjamin Netanyahou sa grande préoccupation quant à la sécurité des journalistes qui travaillent actuellement dans l'enclave palestinienne. C'était la deuxième fois en 4 jours que les deux dirigeants échangeaient directement. Pour la première fois depuis son arrivée à la Maison Blanche, Joe Biden a aussi téléphoné hier après-midi à Mahmoud Abbas, affirmant au président de l'autorité palestinienne que le Hamas devait cesser ses tirs de roquettes vers Israël, tout en lui rappelant que la nouvelle administration américaine était favorable à une solution à deux États pour régler ce conflit israélo-palestinien. Pour inciter à la désescalade, Washington a aussi envoyé un émissaire en Israël et dans les territoires palestiniens et permis enfin qu'une réunion du Conseil de sécurité publique ait lieu tout à l'heure à New York. Washington, Grégory Phillips, France Inter.
Pour autant, la solution diplomatique paraît encore bien loin au vu des dernières déclarations de Benjamin Netanyahou. Nous sommes toujours au milieu de cette opération, a dit hier soir le Premier ministre israélien dans un discours à la télévision. Ce n'est pas terminé. La preuve, ce matin, frappe sur le domicile du chef du bureau politique du Hamas, Yahya Sinwar. L'armée vient de publier une vidéo il y a quelques secondes sans savoir si ce chef du Hamas était bien chez lui au moment de la frappe. Le Hamas qui repousse lui aussi le cessez-le-feu, des roquettes sur Tel Aviv hier et la contagion qui s'étend à la Cisjordanie. Reportage à Ramallah, Alice Froussard.
Il y a des drapeaux palestiniens, des pneus qui brûlent entre deux jets de gaz lacrymogène lancés par les drones de l'armée israélienne. Certains manifestants s'avancent pour lancer des pierres, récupérer ça et là. On entend des tirs, l'armée riposte avec des balles réelles et les sirènes des ambulances retentissent. Une jeune palestinienne, la vingtaine, qui est fiée pour se protéger le visage et qui préfère garder l'anonymat, l'affirme, c'est le moment de se mobiliser.
On a vu dans les villes occupées à l'intérieur, les Palestiniens se sont levés. Aled, Akra, Haifa, Jaffa, Shafa Amer, Oum El Fahem, tous se sont élevés face aux occupants. Pour nous, c'est notre terre et on ne va pas s'arrêter. On prend les pierres, on les lance, même si on sait très bien au fond qu'elles n'atteindront pas les soldats à cause de leurs armes. Mais on restera là.
Les ambulances manquent, un taxi collectif emmène un blessé à l'hôpital. Maïsoun Ali, palestinienne de 55 ans, reste à l'arrière. Nous montre son fils de 18 ans devant, en train de lancer des pierres.
Nous demandons nos droits. On se bat pour nos droits, peu importe comment. Avec une chanson, avec du dap-pied, avec un hashtag, en lançant des pierres, en lançant des roquettes, c'est une question de temps. Ces frontières ne sont pas là pour rester, elles vont disparaître.
Doit-on encore attendre 72 ans, demande-t-elle, avant de l'affirmer, nous sommes le seul pays sous occupation. Ramallah, Alice Froussard, France Inter.
Près de 200 morts en moins d'une semaine, essentiellement côté palestinien. Les pires violences dans la région depuis 2014. Et puis en soutien aux Palestiniens, ils étaient nombreux à manifester un peu partout dans le monde hier. New York, Montréal, Berlin ou encore Londres. À Paris, manifestation interdite, mais entre 3000 et 5000 personnes ont malgré tout tenu à défiler. Bilan, 44 interpellations.
L'actualité, c'est aussi la garde à vue prolongée pour Valentin Marconne.
Elle se termine ce soir, mais toujours plus de questions que de réponses. L'auteur présumé d'un double meurtre dans les Cévennes, qui s'est rendu vendredi soir après plus de 3 jours de cavale dans la forêt, refuse l'aide d'un avocat. Grégory Julien, France Bleu Gard-Lozère.
Ce qui peut paraître surprenant, c'est que Valentin Marconne n'a pas d'avocat en garde à vue. Il a refusé d'être assisté, malgré les propositions répétées des officiers de police judiciaire. Alors à ce stade, ce n'est pas obligatoire. En revanche, cela le sera devant le juge des libertés et de la détention, c'est-à-dire un peu plus tard dans la procédure. Ce qui est sûr également, c'est qu'il se trouve depuis vendredi soir dans les locaux de la section de gendarmerie de Nîmes, qu'une audition très sommaire s'est tenue dans la foulée de sa garde à vue, qu'il s'est ensuite reposé quelques heures et qu'il est à nouveau entendu depuis hier matin. Sans surprise, sa garde à vue a été prolongée de 24 heures. Elle se terminera donc ce soir vers 19 heures. Selon Éric Morel, le procureur de la République de Nîmes, Valentin Marconne s'exprime de manière tout à fait cohérente.
Cet incendie hier dans une usine de pâte à papier classée Seveso à Saint-Gaudens en Haute-Garonne. Une vingtaine de salariés évacués, les flammes maîtrisées à l'heure où nous parlons. Pas de blessés, mais une grosse frayeur car les produits chimiques auraient pu exploser. Premier meeting officiel de la campagne présidentielle et il est signé Jean-Luc Mélenchon cet après-midi dans l'Aveyron à Aubin, ville symbole des luttes ouvrières. Le leader de la France insoumise, candidat pour la troisième fois à l'élection présidentielle, veut y croire. Laurence Perron l'a rencontré pour Inter.
Jean-Luc Mélenchon, qui aime à se regarder dans le miroir de l'histoire, l'assure, sur la longue marche, il y a une auberge. Que personne ne veuille le rejoindre, il convient qu'il aurait dû mieux jouer en 2017, notamment vis-à-vis des communistes, dont j'ai besoin. Je sais que quand je suis allié, ça me déclenche les syndicats. C'est selon lui le dernier réseau qui compte. Avec les jeunes aussi, des manifestations climat et anti-loi sécurité qui vont avoir l'âge de voter en 2022. Il espère à peine secrètement que l'écologiste Yannick Jadot sera candidat. Je cite, il peut prendre une poignée de plumes à Macron quand on lui fait remarquer qu'il est clivant. Peut-être que ma personne pose problème, mais je m'en fous. Mon sujet, c'est la psychologie de masse de ceux qui luttent. Le PS et Europe Écologie Les Verts Jadot se battent pour l'électorat de centre-ville, ajoute-t-il, mais ils ne tiennent pas compte des dynamiques. Il y a des gens qui se radicalisent. Avec lucidité toutefois, il concède que Macron est un rude guerrier, mais il a tort de croire, estime-t-il, que la droite lui est acquise. Il rappelle qu'en 2017, elle a fait 20 millions de voix sous des seaux de boue.
Autre candidat à l'Élysée, autre préoccupation, Xavier Bertrand et la sécurité. Le candidat XLR et candidat aussi à sa succession dans les Hauts-de-France veut en finir, dit-il, avec l'impunité des délinquants. Il faut, selon lui, multiplier les centres éducatifs fermés, les placements sous bracelets électroniques et instaurer la majorité pénale à 15 ans. Si le RN est en position de l'emporter dans sa région, il n'y aura pas d'accord avec la REM, dit déjà Xavier Bertrand au JDD ce matin. Notre liste a été déposée pour le premier et pour le deuxième tour. On fait moins d'enfants en France, 2 par femme il y a 10 ans, 1,8 en 2019. François Bayrou, le haut commissaire au plan, propose ce matin un pacte démographique pour faire grimper la fertilité, dit-il. On peut aussi avoir recours à l'immigration. Il s'agit par ricochet de sauver le modèle social français qui repose pour beaucoup sur la solidarité entre les générations, à commencer, vous le savez, par les retraites.
Défi relevé, il y a bien 20 millions de Français vaccinés contre le Covid.
Cap franchi très officiellement hier, le gouvernement maintient plus que jamais l'objectif des 30 millions d'ici la mi-juin. Sur le front épidémique, le virus est clairement en décrue, moins de 14 000 cas par jour depuis une semaine. Et Santé publique France donne une idée de la répartition des vaccinés, plus de femmes que d'hommes. La tranche d'âge qui s'est fait piquer le plus et de loin, ce sont les 50-74 ans, 57% d'entre eux vaccinés. Le variant indien circule un peu trop au Royaume-Uni, à tel point qu'il pourrait retarder la prochaine étape du déconfinement dans le pays. Mais Jérôme Salomon, le directeur général de la santé en France, relativise. Ce variant serait plus contagieux, mais pas plus virulent pour autant, dit-il. Il touche chez les Britanniques plutôt les actifs de 45-50 ans et non vaccinés. Le déconfinement un peu partout en Europe, avec en arrière-plan l'enjeu des touristes. Après presque 7 mois de confinement, la Grèce fait tout pour remporter ce pari. Couvre-feu à minuit et demi, commerce, terrasse, musée, tout ça ouvert et la foule du monde d'avant dans un pays où le tourisme compte pour près de 25% du PIB. Carte postale dans les rues d'Athènes, Benjamin Illy a suivi le guide.
C'est le temple de Zeus ?
C'est le temple de Zeus.
D'accord, oh, c'est la 4, merci.
que vous êtes là.
Une guide reconnaissante et soulagée. La reprise est timide, c'est vrai. Sur le front touristique à Athènes, les professionnels du secteur n'attendent pas d'arrivée massive avant fin juin. Mais Lina, 42 ans, peut enfin tourner la page des derniers mois. Une mauvaise passe.
J'ai beaucoup de collègues, moi aussi, on a cherché de trouver autre chose à faire. C'était très très dur. Moi, j'ai commencé à donner des cours de français.
Vous n'aviez pas eu des compensations de la part du gouvernement ?
Jusqu'à maintenant, on a reçu environ 3000 euros. Vous voyez que ce n'était pas du tout évident.
Et au pied de l'acropole, on cherche toujours la foule. Heureusement, il y a des musiciens de rue pour mettre un peu d'ambiance.
Bonjour, bonjour.
Et il y a aussi Ioana, grand sourire qu'on devine derrière son masque. Elle est guide également et elle vient de terminer une visite du Parthénon.
La première visite est guidée après des mois. L'enthousiasme, l'optimisme et la liberté. On se sent vivant. On vous attend aux bras ouverts, c'est-à-dire s'esperimenume me anichti agaya.
Et Faristo, okay. Merci, c'est à peu près tout ce que je sais dire.
Bon, on n'a pas tous la chance de Benjamin Hilly, mais au moins il nous aura mis un peu de soleil dans la tête ce matin.
Et 8h10, c'est l'heure des sports.
Avec le foot d'abord, 10 ans après son premier titre, Lille sera-t-il sacré champion de France ce soir? Il faudra gagner face à Saint-Etienne, il faudra aussi que le PSG ne batte pas Reims au Parc des Princes. Ça c'est pour le haut du panier. Mais que se passe-t-il tout en bas? Une bataille d'anciens titans, des clubs historiques comme Bordeaux ou Nantes pourraient disparaître de la cour des grands la saison prochaine. Cédric Guillou.
Ils pèsent à eux deux 14 titres de champion de France. Mais cette saison, Nantes et Bordeaux regardent vers le bas de classement. Aujourd'hui 15e avec seulement 2 points d'avance sur le barragiste, les Bordelais ont perdu 11 de leurs 14 derniers matchs de Ligue 1. Et pour que son équipe s'en sorte, dès ce soir en gagnant face à Lens, l'entraîneur bordelais Jean-Louis Gasset ne voit qu'une solution.
Dédramatiser la situation. Si on retrouve l'état d'esprit, on est capable de gagner un match ou deux encore. On est capable. On a notre destin.
Et le FC Nantes, là aussi, son destin en main. Et les Canaris seront même sauvés, quoi qu'il arrive ailleurs, s'ils remportent leurs 2 derniers matchs. Ça n'a pas échappé à l'entraîneur nantais, Antoine Comboiré.
Si on gagne nos 2 derniers matchs, on est en Ligue 1. On travaille beaucoup pour que les joueurs prennent conscience de l'importance des matchs. Et puis dans les séances de travail et d'entraînement, il faut être présent. Donc c'est stressant, mais à la fois excitant, parce qu'on est revenu donc dans la course.
Une course à 6 pour le maintien, avec aussi Brest, Strasbourg, Lorient et Nîmes. Des Nîmois 19e et qui, en 4 défaites ce soir face à Lyon, feraient un pas de plus vers la Ligue 2.
Avant-dernière journée de Ligue 1, donc avec les 10 matchs tous à 20h ce soir. Et puis les filles de Brest qui remportent la Coupe de France de hand, 37-33 hier face au Nantes. Les joueuses de Basketland, quant à elles, avec leur star Céline Dumerc, sont championnes de France. Victoire sur Montpellier, 72-64. Allez Patricia, Eric, petite devinette.
Allons-y.
À votre avis, qui est le sportif le mieux payé du monde? Est-ce que c'est un joueur de foot, un joueur de NBA? Allez-y, les paris, ça doit pas être de...
Un joueur de Formule 1. Un pilote de Formule 1.
Moi, j'aurais plutôt dit le football, mais comme vous l'avez dit, ça ne doit pas être ça.
Perdu. Pour la première fois, il s'agit, vous l'aurez jamais deviné, d'un combattant de MMA. Oui, alors c'est notre esprit sport ce matin, on va tout savoir. Bonjour Laetitia Bernard.
Bonjour.
C'est une superstar, il s'appelle Conor McGregor.
Et alors MMA, on le rappelle, c'est arts martiaux mixtes, tous les coups ou presque sont permis. Bah d'ailleurs Conor McGregor, il s'en prive pas. Dans la cage, on le reconnaît à son crochet du gauche, à son jeu de jambes spectaculaire. Je vous épargne la description des nombreux tatouages terrifiants qu'il arbore. Ce qu'il caractérise de manière générale, c'est son attitude provocante, insolente. Bah en gros, il est régulièrement suspendu pour des altercations avec ses adversaires en dehors des matchs. Insultes, bagarres, jets de projectiles. Pour vous donner une idée, il a été approché pour jouer le rôle du méchant dans un James Bond récemment. Mmh. C'est donc lui qui termine en tête de ce classement des sportifs les mieux payés, établi comme chaque année par le magazine Forbes, avec plus de 150 millions d'euros perçus entre le 1er mai 2020 et le 1er mai 2021. Il devance Messi Ronaldo sur le podium. Dire qu'il y a encore à peine 10 ans, il touchait les aides sociales irlandaises.
Incroyable. Bon, s'il a gagné autant d'argent, Laetitia, soyez honnête, c'est pas uniquement grâce à ses combats ou ses sponsors.
Non, c'est grâce à du whisky. Alors, il a lancé sa marque en 2018 et il a déjà vendu plusieurs.
Parce qu'il a bu.
Non, il a déjà vendu plusieurs centaines de millions de caisses à travers le monde. Et c'est un homme d'affaires avisé. Il vient de revendre une large partie des parts tout en restant ambassadeur de la marque, pour un jackpot de 600 millions d'euros. Alors maintenant, il aimerait bien devenir propriétaire d'un club de football, le Manchester United, parce qu'il en est fan, ou pourquoi pas le club de Glasgow, qui a été fondé, créé par des immigrants irlandais. Et en tout cas, son objectif, c'est d'atteindre le milliard avant la fin de sa carrière.
Oui, pourquoi pas, une fin de carrière qui pourrait d'ailleurs ne pas tarder.
Ah oui, quand même, il a annoncé sa retraite d'ailleurs déjà plusieurs fois ces dernières années. Faut dire qu'on commence à le voir sérieusement perdre et des combats très importants face par exemple au redoutable russe Khabib Nurmagomedov, pardon, c'est difficile à dire, mais Nurmagomedov. N'empêche que sa popularité, elle reste énorme. Il fait toujours chanter les supporters comme s'il était une équipe de foot à lui tout seul. Il fait battre des records d'audience et de vente de billets, même si bon, avec la pandémie, ses combats ont été un petit peu réduits, mais le prochain, il est bien prévu en juillet à Las Vegas.
Ouais, mais Laetitia, moi, je ne vous vois pas du tout avec un retraité.
Ouais. Conor McGregor, donc on retiendra ce nom. Un autre genre de coup plus droit, si vous me permettez. Tennis, finale du Masters 1000 de Rome aujourd'hui entre deux vieux gars qui ne renoncent pas, pour reprendre les mots du Joker. Novak Djokovic qui retrouve encore une fois son ennemi préféré, Rafael Nadal. Les deux monstres sacrés ne se sont pas affrontés une seule fois depuis Roland-Garros l'an dernier. Merci Laetitia Bernard pour l'Esprit Sport.
Dans le journal d'Hélène Roussel, le temps de ce dimanche.
La météo avec Air France Protect. Réservez avec la plus grande flexibilité et voyagez en toute sérénité sur l'ensemble des vols Air France. Rendez-vous sur airfrance.fr.
Une journée généralement sous l'eau et au frais, Jean-Michel Golinski.
De la pluie, des averses et toujours une relative fraîcheur pour l'époque de l'année, avec un maximum de 13 à 14 degrés près de la Manche, 15 à 17 sur la plupart des autres régions, des valeurs un cran plus haut en Rhône-Alpes avec 18 à 19 degrés, et surtout autour de la Méditerranée avec 21 prévus à Marseille, 22 à Ajaccio et 25 à Nice, avec encore aujourd'hui de la pluie de l'Aquitaine aux Alpes, avec de la neige en altitude sur les Pyrénées et les Alpes, autour de la Méditerranée sur la Corse, le temps sera tout de même plus sec, mais avec pas mal de vent, des côtes varoises à la Corse et dans le golfe du Lion. Et puis sur les crêtes alpines, les rafales vont approcher les 100 km à l'heure. Sur une large moitié nord du pays, c'est un régime d'averse qui va rythmer la journée, avec cet après-midi une instabilité plus forte et souvent orageuse du nord de la Loire au Grand Est, poussée par un vent d'ouest sensible jusqu'à 80 km/h.
Jean-Michel Golinski, Météo France.